une affaire de famille. Le mot chiite signifie « partisan de Ali ». Ali, le plus jeune cousin de Mohamed, a grandi dans la maison de Mohamed et a épousé sa fille Fatima. C'est lui qui a occupé le lit de Mohamed la nuit où il a quitté la Mecque pour Médine. C'est lui qui a porté le drapeau musulman quand ils ont conquis la Mecque en 630. C'est lui qui prenait les décisions à Médine quand Mohamed est parti pour sa dernière campagne militaire dans le nord de l'Arabie, toujours en 630. Le principe de base des chiites est que le chef de la communauté musulmane doit être un descendant de Mohamed. Aux yeux des chiites, les trois premiers califes, écoutez le chapitre 4, n'ont pas cette légitimité. Pour les chiites, Ali a été l'imam ou chef spirituel et politique de la mort de Mohamed en 632 jusqu'à sa propre mort en 661, et non pas seulement pour la période allant de 656-661, date de son califat reconnu par les sunnites, qu'il a exercé à la suite des trois premiers califes. Bien que Ali et ses partisans aient revendiqué dès le début le titre de calife, c'est-à-dire de successeur, il n'a pas cherché à faire usage de la force quand il a été évincé par les autres. Par la suite, les chiites ont considéré que Dieu avait imposé ces années de règne illégitime, 632-656, pour séparer les vrais croyants des hypocrites. Toutes les traditions musulmanes honorent Ali et le dépeignent sous un jour favorable. Dans l'islam chiite, Ali est le modèle du musulman parfait. Il est plus souvent désigné sous le nom de « commandeur des croyants » que par son nom. On dit qu'il maîtrisait parfaitement bien la langue arabe, étant lui-même koraïchite, et qu'il avait une fière allure de guerrier, alliant la jeunesse et la beauté à la bravoure. Dans l'iconographie musulmane, Ali est représenté par l'épée à double tranchant de Mohammed, ce qui correspond à une vision de l'islam chiite que les sunnites ont tendance à récuser. Texte sacré. Selon la tradition chiite, quand Mohammed est revenu de son voyage nocturne à Jérusalem, voir chapitre 3, il a jeté son manteau au-dessus de Ali et Fatima. Pour les chiites, cela a été interprété comme étant le signe que Mohammed lui-même désignait ainsi Ali pour lui succéder. Il y eut un autre signe plus important encore. En effet, un hadith rapporte que, au cours de son pèlerinage d'adieu à la Mecque en 632, Mohammed a reçu une révélation divine désignant Ali comme son successeur. Mohammed a attendu de se retrouver à l'oasis de Ghadir Qum, située sur la route qui ramène les pèlerins à Médine, pour rendre publique cette annonce. Cette désignation lui a été inspirée par Dieu. C'est ainsi que les chiites comprennent la sourate 5:67 qui dit « Ô messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. » Mohammed a rassemblé tous les pèlerins et leur a dit « Celui dont je suis le maître, Ali est également son maître. » Il a alors demandé à toutes les personnes présentes de reconnaître Ali. Par la suite, ce récit a été encore embelli. Conseil. Si dans l'islam sunnite, l'imam est le chef de la prière, dans le chiisme, en revanche, l'imam est le chef de la communauté. Il assume à la fois la conduite politique et religieuse de la communauté, tout comme Mohammed. À la différence des prophètes, l'imam ne reçoit pas de nouvelles révélations, mais il est conseillé par les anges et a une connaissance unique de l'Écriture sainte. L'imam est responsable de l'administration des piliers de la religion, de la prière, du jeûne, du ramadan, psaume, de la perception de l'aumône légale, zakat, de la direction du pèlerinage, hajj, de l'action d'étendre et de défendre le domaine de l'islam, d'imposer la loi islamique et interpréter la signification du Coran. Chaque prophète a 12 adjoints, wali, selon la doctrine du chiisme du haut des six mains, centré sur la personne de l'imam. Ali est le wali à qui Mohammed a enseigné le sens caché du Coran. Ali est aussi celui qui a recopié le Coran sous la dictée de Mohammed. Selon la doctrine chiite, l'imam caché est en possession de cette copie du Coran et la fera connaître quand il reviendra. Voici quelques concepts fondamentaux dans le chiisme concernant les imams. Comme Ali et son fils Hussein, tous les imams ont été martyrisés, excepté le 12e imam. Aussi, la famille de Ali est-elle appelée la maison de la désolation. Parce que les chiites ne sont pas venus à la rescousse de Hussein au jour de Kerbela, se reporter au paragraphe de ce chapitre intitulé « Le martyr de Hussein à Kerbela », la souffrance et le repentir pour les péchés commis jouent un rôle important dans la foi chiite. Les imams supportent volontairement leur douleur au nom de tous les croyants. Au jour du jugement dernier, les imams ainsi que Fatima, la fille de Mohammed, intercéderont devant Dieu pour les fidèles chiites. Le chagrin de Fatima à la mort de Hussein est comparable à la douleur de Marie, la mère de Jésus, au pied de la croix. De même que Mohammed a désigné Ali comme son successeur, de même chaque imam, guidé par une inspiration divine, désigne son successeur, Nas. L'imam est sans péché et infaillible, Chisma. Il connaît également le sens intérieur caché et externe des écritures saintes et d'autres livres secrets. Il doit toujours exister un imam visible ou caché, sinon le monde cesserait d'exister. Selon la doctrine de l'occultation, Gaïba, l'imam peut disparaître, mais reste vivant en tant que chef de la communauté musulmane. Le 12e imam est l'imam caché, dont la présence est occultée aux yeux des hommes, mais demeure sous la protection de Dieu en vue de son retour à la fin des temps, où il apparaîtra comme le Mahdi, qui établira la justice sur terre. La simulation, taqiyya, ou la dissimulation, signifie que, afin d'éviter la persécution, il est parfois légitime de cacher son identité chiite. Il en découle qu'un imam chiite peut être amené à se soumettre à un dirigeant illégitime, tout comme Ali s'est soumis à l'autorité des trois premiers califes. La connaissance ésotérique des textes, batin, est accessible à l'élite spirituelle, qui est capable d'aller au-delà du sens littéral des textes des Écritures saintes. La souffrance des imams est une grande injustice. Le souci de justice qui émane de la doctrine chiite, Hadl, et sa croyance que l'imam caché, à son retour, viendra établir un ordre mondial juste, explique l'attrait du chiisme auprès des groupes utopistes et révolutionnaires.
Le Mahdi est l'imam caché. Le Mahdi est en quelque sorte le Messie qui viendra à la fin des temps. Il vaincra le mal, donnera une juste rétribution et régnera sur un monde idéal où tout homme sera soumis à Dieu. La paix et la justice régneront, et la pauvreté sera éliminée. Écoutez le chapitre 7. Les penseurs sunnites, au fil des siècles, se sont toujours montrés sceptiques à l'égard de cette attente du Messie. Le Mahdi n'est mentionné ni dans le Coran, ni dans les deux grands recueils de hadith sunnites, ni par Al-Ghazali. Dans l'islam sunnite, l'idée du Mahdi est souvent combinée avec celle d'un restaurateur temporaire de la foi, Mujahid, qui apparaît à la fin de chaque siècle. Il y a eu divers mouvements politiques réformistes, particulièrement en Afrique, qui ont été menés par des individus prétendant être le Mahdi. Citons entre autres Ibn Tumart, 1077-1130, le fondateur de l'État Almohad en Afrique du Nord. Mais aussi Othman Danfodio, le fondateur du califat de Sokoto dans le nord du Nigeria, environ 1800, et le fondateur du mouvement Sanoussi, qui a créé l'État libyen. En 1881, Mohamed Ahmad ibn Abd Allah s'est proclamé Mahdi et a fondé la nation du Soudan sur des bases idéologiques de restauration de l'islam tel qu'il existait à l'origine à Médine. Le chiisme duodécimain n'appelle pas Mahdi les 11 premiers imams. Le 12e imam caché s'appelle Mohamed al-Mahdi. Il est vivant sur terre, tout en ayant des connexions avec les prophètes déjà au ciel, et reviendra un jour comme imam et mahdi. Ainsi, dans le chiisme, le concept de Mahdi se confond avec celui de l'imam caché.